Radio Campus.
La musique, moi, ça me remue. Eh ben, ça tombe bien. Allez, au turf, et rapido.
88.3.
Radio Campus Orléans.
À part des gens comme toi, qui peut écouter ce genre de merde?
Deux jeunes timbrés sur un canapé dans la cave de leurs parents.
88.3.
And this is called Bam Bam Rhythm. Enjoy.
French Kiss.
Sexe et société.
Un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss.
Et ben voilà.
French Kiss.
Et ben voilà, c'est French Kiss qui recommence. Salut Anaïs.
Salut tout le monde.
Salut aux éditeurs et aux auditrices.
Ouais, d'ailleurs, je suis en train de penser que le jingle, un mardi par mois, on essaye de vous faire deux mardis par mois.
Ouais, il va falloir qu'on le refasse en cette saison 2.
Ouais, à tous les services civiques de la radio.
Ouais, d'accord. On en a que deux, mais on va leur demander de faire des choses. Ou alors, on rappelle nos anciens services civiques d'Orient
et Lilian, bien. Oui.
Avec leur voix de rêve.
Ouais, vos voix nous font fantasmer, s'il vous plaît, revenez nous faire un jingle si vous nous écoutez. Bonjour Julien, bonjour à tous, bonjour le doc qui doit être peut-être dans les transports, Inch'Allah, j'espère que tout va bien.
J'espère pour lui parce qu'il
nous
manque déjà.
Pour l'instant, nous n'avons pas de doc, mais c'est pas grave, on va quand même vous faire passer une heure de folie. Donc bienvenue sur la planète French Kiss, l'émission sex-société qui n'a pas de tabou. Ici, on est bien, hein, on parle de vous, on parle de nous, on se fait plaisir, on apprend des choses. On a fait notre rentrée donc, fin septembre, on a passé un excellent moment avec vous la dernière fois, donc c'était il y a 15 jours, et on va tout faire pour que ça continue le reste de l'année. Donc pour rappel, on se voit une fois toutes les deux semaines, mais pour ne pas vous laisser sans rien les mardis de disette, on n'est pas là, mais on tente de vous mettre un petit contenu sympa. La semaine dernière, vous avez eu des interventions de spécialistes autour de la contraception masculine, donc ce sera encore le cas la semaine prochaine.
Tout à fait, c'est la deuxième partie de cette méga émission de 2 heures que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer au 108.
Ouais, j'ai eu des très bons échos et tu vois, les gens en effet qui ne savent pas trop quel mardi ils nous entendent, bah, au moins, là, ils sont tombés sur quelque chose pour ceux qui n'avaient plus les dates et ils étaient contents. Voilà.
Cool.
Donc, le but de l'émission, on vous rappelle, c'est de réagir, de nous donner des idées, de parler de certaines anecdotes. Donc, les réseaux, c'est très important. Donc, je pense qu'on est connecté sur Twitch.
Oui.
Donc, c'est radio-du-bas, campus-du-bas, Orléans. Et sur Insta, c'est French Kiss Campus pour vos DM. Je lis tout. C'est anonyme. Quand vous voulez. Dites-nous tout. Franchement, ce serait super si vous pouvez réagir sur notre sujet du jour, notamment. Et ce sujet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on est sur le porno ce soir et on sait que c'est très attendu, donc on aura plein de choses à vous dire. Je pense que le doc aura peut-être plein de choses à nous dire aussi. Voilà, donc on va faire peut-être une petite météo interne déjà pour commencer.
Trigger warning hein, quand même hein, sur,
ouais, ouais,
sur,
bien
cette,
sûr.
Sur cette
non, mais en ce moment c'est tous les mardis donc
en fait ça va être un petit enfin en vrai on a une émission qui appelle le trigger warning puisqu'on parle de sexe, de société à une heure de très grande écoute.
Oui, tout à fait.
Attention hein, quand on va parler de pornographie, ça peut choquer, faut enlever certaines oreilles très chastes des haut-parleurs. Et après, attention, ça peut aussi dériver sur de la violence sexuelle. Et donc, du coup, il faut faire un peu attention à ce que vous allez entendre. Il y a des choses qui peuvent être un peu choc dans le porno. Donc, voilà.
Ouais, alors évidemment, après, on n'est pas là pour vous choquer non plus.
Non, mais c'est qu'il y a il peut y avoir des mots déclencheurs. Voilà.
Voilà, on est surtout là pour vous informer, vous dire un petit peu ce qui se passe dans le monde du porno, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, et puis les tendances, etc. Donc voilà, on va surtout vous informer, on espère, et puis on va rire. On a des nouvelles...
Les nouvelles du doc, ça ressemble au Covid. Hein.
Ah ouais. Ah ouais, mince.
Et bah, peut-être que le doc va pouvoir nous suivre via Twitch, en tout
et
cas,
bah oui.
Et peut-être qu'il pourra répondre à vos questions via Twitch.
Peut-être.
Voilà,
donc,
dans le...
Ouais.
Dans le... dans le chat.
Et bah du coup, je vais commencer ma météo interne parce que j'ai survécu au Covid.
Et bah vas-y.
Et je suis contente de faire une journée à peu près normale aujourd'hui. Donc ça va beaucoup mieux. J'ai quand même eu 10 jours vraiment pas bien. Donc je vous souhaite pas. Sortez couvert. Voilà. Et puis, alors, je le dis pour. Parce que, un petit info Covid, quand même, tous mes tests étaient négatifs. Mmh. Et donc, en fait, peu importe comment ça s'appelle, mais il y a des méchants virus quand même qui traînent. Et.
Il faut bien remettre son masque.
Et ouais, je pense que le masque sur des situations style au moins supermarché, de la foule et tout ça, ça peut être pas mal.
Réunion grosse promiscuité aussi.
Ouais, ouais.
Dans les salles de concert, peut-être aussi penser à le remettre.
Ouais, ouais, ça peut être pas mal. Et voilà. Et sinon, j'ai passé une journée bizarre.
Aujourd'hui mais,
ouais.
Vas-y.
Non, j'ai pas envie de balancer à la radio.
Est-ce que tu peux confidentialiser ou anonymiser
ton témoignage ? En fait, je suis quelqu'un d'entier et j'ai besoin de m'adresser à des gens en qui je peux avoir confiance. Et un jour, aujourd'hui, je me suis dit que c'était pas le cas. Et qu'il va falloir que je sois moins naïve et fasse plus attention. Donc voilà, à 31 ans, on peut apprendre de ses erreurs.
On apprend tout le temps.
Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi sinon ? Ah oui, si, j'ai fait une formation violence sexiste et sexuelle cet après-midi.
Ah oui, ça retourne CNM, un peu là, ça voilà. Aussi. Hein.
Et alors, moi, j'avais rien appris parce que figurez-vous que j'avais suivi cette formation exactement la même, mais sous une autre étiquette, pendant le premier confinement. C'était Ici C'est Cool qui proposait des visio-formations.
Ici, donc, c'est cool, ici c'est cool, c'est un... Ouais. Un dispositif pour dire que dans les lieux de fête, on essaie d'en faire des safe places, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et il y avait, par exemple, il y avait plein de gens, c'était au niveau national. Je crois qu'on était 150 que des femmes sur ces visios pendant le premier confinement. Et là, évidemment, maintenant, alors moi, je suis dans le spectacle, donc... du coup, il y avait aussi des hommes, et c'est maintenant des formations obligatoires. Donc, c'était la même formation. Et oui. Voilà, j'ai vu l'évolution, ça m'a fait un peu...
Du bien ou rire ?
Rire.
Jaune.
Rire jaune, voilà.
Oui, il faut savoir qu'en fait, dans le milieu de la musique et dans le milieu culturel, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle l'égaconditionnalité, c'est-à-dire que si on ne fait rien pour lutter contre les VSS et pour permettre l'égalité salariale entre hommes et femmes, ou entre femmes et hommes, eh bien, on se retrouve à avoir potentiellement nos subventions qui sont sucrées.
Voilà.
Et donc, du coup, le punitif... C'est triste à dire, mais c'est ce qui marche le mieux pour forcer les gens à aller vers des actions de formation et à minima d'avoir des adresses pour signaler les violences sexuelles sexistes au travail ou au moins prendre conscience qu'il se passe des choses pas cool pour les AFAB.
Et on peut définir ce terme pour ceux qui ne sont pas au courant ?
AFAB en anglais, c'est Assigned Female at Birth. Donc, ce sont les personnes qui ont été assignées au genre féminin à leur naissance et qu'elles se sentent cis ou trans. Voilà.
D'accord.
Ou à gender ou bigender, mais c'est qu'en fait, on vous a assigné le genre féminin à votre naissance, mais ce n'est pas forcément ce que vous sentez. Mais ça permet d'être plus inclusif.
Voilà. Et bien, ça, c'était la petite minute apprentissage, connaissance, enfin partage de connaissances. Et on apprécie. Merci, Julien. Et ta météo à toi, c'est quoi ?
Moi, je suis fatigué.
Oui, mais j'espère que tu ne couvres pas quelque chose.
Non, je ne couvre rien. Je pense juste que je suis fatigué parce que plein d'activités dernièrement. Un super week-end, même si c'était un week-end de travail, c'était chouette. Voilà, on a fait une très belle fête de la science sur les ondes et on vous a proposé une magnifique émission de 2 heures en direct de la BU de sciences avec plein de vulgarisation scientifique. C'était cool, mais je pense que là, il va falloir que je mette un petit frein travail pour pouvoir aussi me reconcentrer sur... le perso pour pouvoir se ressourcer et avancer bien dans le travail. Parce que même si on a des métiers passion, il y a un moment, il faut aussi pouvoir décrocher du taf. Quoi.
Tout à fait, ouais, le métier passion.
Et si j'ai vu un super concert jeudi soir.
Ah ouais, c'était quoi ?
C'était Krenoka.
Ah oui, ah bah oui.
En fait Krenoka, voilà, ça fait 4-5 ans qu'on suit les aventures de Krenoka. Depuis même plus longtemps, puisqu'elle a fait partie de Boys in Elise, puis de Tevani. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on suit. Et j'adore en studio, j'adore, ça me parle. J'ai l'impression que c'est écrit directement pour moi. Quand j'écoute la chanson, il est comme si on était en face à face et que je l'avais pour moi. Et du coup, j'ai enfin pu aller voir ça en concert. Krenoka. Et je suis tombé encore plus sous le charme que ce que j'étais avant. Ouais. Je trouve que la scéno est magnifique. Ouais. Juste, il faudrait de la surélever d'un mètre
ça,
pour
c'est
que
à chaque
tout le
fois
monde
je
puisse
me...
en profiter.
Exactement, je me dis ça à chaque fois. Mais moi aussi, j'adore en studio. J'ai eu une claque la première fois que j'ai écouté. Et puis, les concerts, je ne m'en lasse pas. C'est très
c'est beau.
Méditatif, beau.
Ouais,
et
c'est
du
pas
coup,
que méditatif en plus.
Non, mais du coup, faut réfléchir à la scénographie. En effet, moi, je pense qu'il y avait un vrai travail à faire pour nous mettre en autre situation. Tu vois, Terre du Son, là, le dernier concert que j'ai vu d'elle, on était assis par terre sous un chapiteau. Bah oui, mais en fait, on la voyait mal parce qu'elle était sur une grande scène. Non, il y avait un truc qui
alors soit peut-être
manqué.
Tous assis autour d'elle, elle assise au sol,
voilà.
Carrément donner un... Il y a un effet vaisseau spatial, en fait, quand on la voit.
Oui, oui, c'est ça.
Et du coup, peut-être la surélever plus, nous debout, et peut-être même voir, pourquoi pas, rajouter un peu de déco dans la salle en elle-même, des trucs qui rappellent ce qui est
des
sur scène.
Des poufs. Moi, j'ai dit que je voulais des poufs.
Des poufs, ou même un peu des LED qui changent de couleur en même temps que son cockpit change. Enfin, voilà,
y a mais il y a plein de trucs à faire avec cet artiste, et c'est très chouette. On a de la chance d'en avoir des comme ça en région centre. Enfin, on en a plein des comme ça, mais en tout cas, qui, je pense, vont aller loin. J'espère, en tout cas.
On a Clé dans le chat qui nous demande si on peut en écouter un créneau cab. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine.
Non, mais en plus, on en avait déjà passé par le passé, pardon.
Ça faisait partie de mes petits coups de cœur qu'on avait mis et t'étais bien. Mais on en remettra pour dans 15 jours.
Ouais, et on aurait pu, parce qu'aujourd'hui, j'ai sélectionné trois meufs. Bon, qui pèsent, mais bon, à des renommées différentes.
Oui.
Mais j'ai trouvé ça marrant de mettre trois meufs badass comme ça. Merci pour cette météo interne.
Je t'en prie.
On va passer sur les petites news. Alors, c'est marrant parce que je ne les ai pas relues avant de faire cette émission. Je les ai mises il y a assez longtemps.
Oui.
La première, il faudra que je la relise. On mettra peut-être une pause musicale. Mais par contre, dans les news, c'est les Cubains qui ont approuvé le mariage entre personnes de même sexe. Donc, un pays de plus a validé. Le mariage, pour tous, on va dire.
Pour tous.
Près de 67% des votants ont dit oui au nouveau code des familles, donc qui valide cette décision. Donc ça date du 25 septembre c'est vrai que le pouvoir, c'est un pouvoir communiste, donc c'était important aussi de donner cette news. Chacun avance un peu à son rythme, on va dire, dans le monde.
Oui.
Et là, c'était quand même important, je pense, d'en parler.
En plus, c'est pas souvent les pays les plus autoritaires qui sont le plus enclins à ouvrir leur droit civil à tous.
Ouais.
Voilà, donc c'est intéressant. Et puis après, et puis en plus, c'est un pays Amérique centrale, on va dire.
Ouais.
Donc, un comportement très latin et une religion catholique très présente. Même si c'est un pays communiste, ça reste quand même un peu dans les mœurs. Et du coup, c'est intéressant de voir que même dans des pays où la chape judéo-chrétienne est très présente, on arrive quand même à avancer et à se dire que le mariage peut être pour tous.
Ben oui, donc c'est important. Alors en deuxième news, j'ai lu ça, alors c'est pas vraiment une news, mais il y a plusieurs articles qui sont passés, qui sont parus sur plusieurs médias, qui parlent de ces personnes qui ont changé de sexe et qui le regrettent. Qui parle de tendance à la détransition et ça fait quelques scandales. Alors je pense que c'est, j'ai creusé un peu pour voir si c'était pas non plus le cas d'une personne et donc ça avait été médiatisé. Il y a quelques cas où justement face à ça les politiques parlent de phénomènes de mode, de parler de toutes ces transitions, que c'est ça pour les jeunes, c'est très très mauvais de leur rabâcher les oreilles là-dessus parce que du coup ils pensent ça et puis en fait que c'est juste parce qu'ils se font influencer, etc. Donc, je sais pas si Julien, justement, j'ai pensé à toi pendant cette news, je me suis dit ça se trouve tu auras un avis sur la question.
Moi je pense qu'en fait c'est des phénomènes ce sont des épiphénomènes parce que quand on voit que ceux qui veulent transitionner ont multiplié par 10, forcément il y en a qui vont suivre, enfin il y a toujours des gens un peu influençables mais c'est pas la majorité. Donc oui, j'ai un avis effectivement, mais en fait c'est peut-être aussi des gens qui ont été mal accompagnés dans leur parcours de transition, qui ont des psychologues qui avaient peut-être envie de faire pas faire leur travail, ou même un chirurgien. Il faudrait savoir aussi dans quel pays se trouve la majorité des transitionneurs, parce qu'en France, on est quand même un pays où on ne fait pas trop de business avec la santé par rapport à un pays comme les États-Unis. Et donc, à voir s'il y avait des chirurgiens un peu scrupuleux là-bas qui se sont dit « Je m'en fous, il veut changer de sexe, moi, ça me fait du pognon. » Et puis, au diable sa psychologie. Voilà, moi, faudrait voir un peu aussi. Forcément, plus il y a des gens qui vont transitionner, plus il y aura de gens qui vont regretter leur choix. Mais est-ce que. Il faudrait voir la proportion de gens. Ça reste quand même très anecdotique par rapport au nombre de personnes qui sont en besoin de transition. Il faut savoir que quand on fait sa transition, on ne change pas forcément de sexe non plus. Hein. Mm-hmm. Il y a des gens qui transitionnent de genre, mais qui n'ont pas forcément besoin de transitionner physiquement non plus leur corps.
Oui, c'est sûr. Corps, quoi. Ouais, tous les cas sont différents. Voilà, je crois que les témoignages que j'avais lus, c'était États-Unis, France, Belgique, Suisse, quelque chose comme ça. Donc, bon.
Après, si vous posez encore des questions sur la transition, je vous conseille le très bon documentaire Océan qui a été coproduit par Arte, où on suit justement la transition d'une jeune fille vers son nouveau lui de Océan. Voilà.
D'accord, ok, merci pour la biblio, la filmo. On va faire une petite pause musicale tout de suite et puis
avant
après,
de passer à la dernière news.
Ouais, on passera au porno direct.
Bah, pourtant la dernière, ouais, elle amène, ok.
Ouais, ça fera une petite transition.
Okay. Et tu veux qu'on écoute quoi du coup?
Et ben Beyoncé, ça va nous mettre vraiment dans la vibe. C'est le dernier album de Beyoncé, donc c'est le single Cuff It qu'on voit beaucoup sur Instagram.
Okay.
Voilà, un petit tube en puissance sur French Kiss, Radio Campus Orléans.
I feel like falling in love. To fuck something up.
Something
I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up.
I
wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. You ever had fun like this? We gon' fuck up the night.
Fucked up,
for you. I put my cup up,
my cup.
On est de retour sur French Kiss. Excusez-nous, je ne suis pas hyper à l'aise avec mon... Je suis plus à l'aise que la semaine dernière, mais je ne suis pas encore hyper, hyper à l'aise avec mon...
Ta console.
Voilà, merci. Et le son de la console qui rentre et qui sort les pauses musicales. Donc, je suis hyper trop en gros plan. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte.
Moi, je n'ai aucune vue sur Twitch. Mais je m'excuse aussi pour ma mine fatiguée. Désolée, les Twitchos. Comment on dit ? Je ne sais pas.
Les viewers.
Voilà. Donc ouais, on allait parler du porno.
Oui. Et du coup, on a une dernière news.
Ouais, tout à fait.
Alors, tu m'as demandé de la faire, donc ouais. je vais la faire. Et cette dernière news, c'est le mercredi 28 septembre 2022. Un rapport du Sénat demande de rendre plus difficile l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Parce qu'on ne va pas se cacher, c'est quand même... tout à fait ridicule ce qu'on demande. Enfin, voilà, c'est du déclaratif. Êtes-vous mineur, êtes-vous majeur ? Clic, clac, pouf. En gros, quand tu n'as même pas 18 ans, même quand tu as 14 ans, un accès à Internet, tu peux accéder au porno et ce n'est pas tout à fait c'est pas suffisant pour la protection des mineurs. Donc, porno, l'enfer du décor, c'est le titre de ce rapport qui ressemble plus à celui d'une émission de télévision choc, mais il est bien celui du rapport parlementaire présenté mercredi 28 septembre par 4 sénatrices. Pendant 6 mois, les parlementaires ont multiplié les travaux et les auditions pour mieux cerner les arcanes de l'industrie pornographique française. Ce rapport intervient alors que le monde du porno français est actuellement secoué par une sordide affaire judiciaire. 3 acteurs et un réalisateur ont été mis en garde à vue pour viol, proxénétisme et traite d'êtres humains. Je crois qu'on doit faire appel, on doit parler de cette fameuse... boîte de prod J et M, les merci qui, voilà, qui ont quand même en fait amené des gens à des situations et qui n'ont jamais vraiment pratiqué le droit à l'oubli de ces personnes. Normalement, dans les contrats, c'était marqué pour une exploitation de 5 ans et en fait, ils les ont retransformés. Ils ont 50 ans d'exploitation des images. Enfin, voilà, de quoi pourrir votre vie, un bon paquet de moments si. Si ça suite. Donc, les sénatrices ne préconisent pas dans leur rapport d'interdire la pornographie. C'est un marché opaque et en constante évolution qu'il est impossible de l'interdire, explique Annick Billon, la sénatrice UDI. Il souhaite mieux encadrer cette industrie afin de lutter plus efficacement contre les violences sexuelles subies par les actrices, la diffusion de stéréotypes sexistes, mais aussi surtout un fléau bien connu, l'accès des mineurs à la pornographie. Le rapport indique ainsi que 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 de ceux de moins de 12 ans ont déjà visionné un contenu pornographique sur les 19,3 millions de personnes qui consultent chaque mois un site porno. 12%, soit 2,3 millions, sont des mineurs. Voilà, et donc cet accès ultra facilité au porno amène plein d'autres questions de société et notamment... la question de la pédocriminalité. Hein. Il faut savoir que faire voir des images pornographiques à un mineur, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une très très grosse amende qui se chiffre en milliers d'euros.
Ouais, enfin, ça, c'est juste faire voir de la pornographie aux mineurs. C'est vraiment... Il y a tellement de cas qui peuvent aller évidemment plus loin et qui sont très répréhensibles.
Et faire regarder de la pornographie à un mineur, c'est de la pédocriminalité. On va attaquer directement avec ce trigger warning-là, pédocriminalité. Le problème, alors avant d'aller sur l'histoire de la pornographie, le problème souvent quand on fait regarder de la pornographie à des enfants, c'est qu'on va perturber leur conception de l'amour, du sexe, de la parentalité, de tout ça, et que souvent, les pédocriminels, les prédateurs pédocriminels, vont l'utiliser pour brouiller justement les pistes de l'enfant et lui faire croire que c'est un rapport tout à fait normal, et donc du coup, en profiter et avoir des relations sexuelles avec ces enfants qui ne peuvent pas consentir pleinement et qui n'ont pas un consentement éclairé. Voilà, ça fait vraiment partie des problématiques de la pornographie, de son accès ultra libre. En fait, on pourrait presque se dire que tous les FAI, tous nos fournisseurs d'accès Internet sont presque en soi coupables de laisser accéder de la pornographie à des mineurs. En fait, il faut peut-être trouver un moyen pour ces sites web, vérifier la carte d'identité de la personne, plus après avec une empreinte de carte bleue qu'on peut pas avoir si on n'a pas 16 ans, bloquer certains contenus. Enfin voilà, il y a certainement des choses. Alors après, il y a toute la fange illégal avec tous les sites qui repartagent des choses, tous les streams de streaming, le Warez et tout un tas de choses qui sont underground sur lesquelles on aura toujours des difficultés à lutter. Mais au moins sur tout ce qui a pignon sur rue, il y a un moment où il va falloir faire quelque chose pour bloquer l'accès aux mineurs à la pornographie. Voilà.
Ce que je voulais dire. Oui, non, mais ça, c'est un sujet important. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais ce que je considère, c'est que la pornographie, c'est un sujet vraiment à tiroir où ça amène plein de questions de société actuelle qui sont en train d'être posées hein, au niveau national, international, politique, sociétal. On parle de personnes aussi qui travaillent dans ce milieu de la pornographie. Ça, ça amène plein de questions. Les travailleurs du sexe qui œuvrent dans ce milieu, qui est un vrai milieu économique, un secteur voilà, qu'on pourrait... dont on pourrait parler pendant des heures. Je voulais juste refaire une petite histoire du porno parce que je trouvais ça assez intéressant. Alors ça va être très décousu parce que c'est très long, mais le porno, ça vient surtout vous savez, des statuettes un peu paléolithiques avec des énormes seins de style Vénus ou des bonhommes avec des phallus XXL. Donc ça, c'est vraiment les inspirations un peu des Grecs et des Romains sur voilà, ce qu'on pouvait voir. Et en fait, il y a aussi les Hindous de leur côté, il y a 2500 ans, qui ont commencé à décorer les temples avec des reliefs ou des sculptures de couples en pleine action. Donc là, on était vraiment sur des ébats, enfin voilà, on parle de Kama Sutra maintenant, mais bon, il y avait quand même des inspirations presque artistiques liées à cette décoration de temple qui représentait du sexe, hein, tout simplement. En Extrême-Orient, il y a des dessins et des gravures avec des représentations de jeunes de jeunes. Alors j'aime bien ce terme parce que j'ai vraiment trouvé une histoire comme ça avec le mot jeune en plein acte sexuel qui avait circulé aussi. À ce moment-là, donc on a encore des traces en fait de toutes ces vestiges artistiques, et évidemment les Grecs et les Romains, comme je disais, qui ont laissé des témoignages d'orgies partout, alors avec des vases, des peintures murales, en passant par même des textes érotiques, on en a évidemment retrouvé. Donc on se doute bien que tout ça, ça a alimenté aussi ce qu'on peut appeler le porno aujourd'hui. Donc avec le christianisme. Et tout ce qui va avec, ça s'est un peu arrêté. Et il y a eu... en fait, disons qu'on a catalogué le sexe comme étant un tabou et un péché. Et donc, on n'a pas vraiment eu cette poursuite d'inspiration de pornographique, on va dire, où on voyait, où on entendait, où on lisait ces débats sexuels. Et en fait, il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle avec l'apparition de la photographie, où on peut voir des premières photos de nus, de couples, de personnes qui sont en plein acte sexuel. Et la première photo de sexe oral, elle est anglaise et elle date de 1890. Je me suis dit que cette date était importante pour se rendre compte vraiment d'un début de pornographie. Au niveau des films, quand on sort de la photo, il y avait des films aussi avec des femmes en train de se déshabiller et qui circulaient plutôt clandestinement, qui étaient sans titre. Mais c'était plutôt la mode virale du moment. Il y avait quelques petits films qui commençaient à sortir. Donc ensuite, ça s'est élargi. On a parlé plutôt de commerce. Il y a quand même tous ces films un peu clandestins qui sont devenus une sorte de commerce à la mode, surtout qui était lié à la prostitution, au bordel. Donc vraiment, tout ça, ça a été mis ensemble. Ouais.
Les écrits libertins aussi de Sade, tout ça, à la fin du 18e, on peut aussi assimiler ça à un début de pornographie avec les gravures érotiques qui étaient à l'intérieur de Ferdinand Lepps.
Ouais, c'était quand ça, du coup ?
Fin 18e, 1780 et quelques.
D'accord. Alors oui, je pense que les écrits... Moi, je pense que là sur l'article que j'avais lu, on parlait surtout de pornographie en référence à l'image.
OK. Donc, du coup, les gravures érotiques, ça fonctionne.
Et du coup, oui, c'est sûr. Alors après, ça c'était pas mentionné spécialement parce qu'il disait vraiment que c'est avec l'avènement de la photographie que c'était revenu vraiment dans la danse et que c'était... Voilà.
Avec les surréalistes aussi, Man
Ray. Ouais, tout ça, c'est vrai qu'ils ont été assez acteurs de tout ça, finalement. Du coup, il y a vraiment un début du porno qui se passe. On a commencé à filmer des masturbations, du sexe oral, des pénétrations vaginales et anales, des éjaculations, des scènes lesbiennes et gays aussi, pour satisfaire tous les publics, et dont les publics homosexuels. Donc il y a plusieurs films qui sont assez incontournables dans l'histoire du porno. Il y a un film argentin en 1907 qui met en scène du sexe lesbien. Dans les années 1920, il y a un film produit aux États-Unis qui est un peu plus sérieux parce qu'il raconte, il y a vraiment un récit qui déroule. Et puis en fait, c'est érotique et puis ça devient un peu plus pornographique sur la fin.
On peut citer les titres du film argentin.
Bien sûr. Ouais.
El Satario.
El Satario, voilà.
et The Casting Couch pour 1920. Alors, on est déjà dans un des... dans un des catégories qu'on pourra voir presque 100 ans plus tard sur les, sur les sites porno, hein, la catégorie casting, en fait. On en arrive, enfin, rien n'a beaucoup bougé, en fait.
Non, bah ouais. Faudra qu'on en parle, ouais, justement, de ces catégories, éventuellement. Et puis, donc, l'industrie du porno fait un petit bond après la Seconde Guerre mondiale. Bah,
j'aime bien la phrase que tu n'as pas citée, là, quand même. Tout se passe avec un répertoire de sexe hétérosexuel complet, assaisonné de misogynie, d'abus de pouvoir et d'humiliation des femmes.
Ah oui, mais sexe, je me suis dit que c'était pas ça n'avait pas forcément changé.
Bah oui, mais bon... enfin, voilà, il faut quand même le dire. Alors après, ouais, si ça change un peu,
y a, oui, bien sûr.
En fait, c'est surtout la catégorie industrie du porno et l'ultra-capitalisme dans le porno qui va jouer sur ces codes ultra-virilistes et dégradants, misogynes. Enfin, on le voit, on a plein de questions dans le chat, ça file un peu.
D'accord, ok, bah, pardon, je vais abréger.
Non, on n'abrège pas, en fait, on discute tous ensemble. Quoi.
Et voilà, de toute façon, j'arrivais à la fin. Donc, juste pour dire qu'au niveau international, la pornographie, elle est légale pour nous, enfin elle est discutée, cette les questions de la légalité, mais elle est illégale évidemment selon certains pays. Et voilà, et après il y a des lois qui sont très ouvertes, suivant qui parlent, enfin cette ouverture elle touche l'emploi des acteurs et à la fois les sujets abordés et les consommateurs, est-ce qu'ils peuvent être majeurs, mineurs, enfin voilà, on en a un peu parlé pour la France, mais ça diffère vraiment selon les pays.
En gros, les lois sont très ouvertes tant que les acteurs, les consommateurs sont consentants et majeurs.
Oui.
Voilà. Et puis, il faut savoir qu'en fait, il y a des pays où on va qualifier des choses de pornographie, alors que dans d'autres pays, ça ne le serait pas. Par exemple, au Japon, la pornographie apparaît à partir du moment où on voit des poils sur les appareils génitaux, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça. Et dans leur pornographie, tout l'appareil génital doit être flouté, même sur un porno dit classique. C'est censuré. Donc voilà, il y a des choses un peu étranges dans le rapport au sexe. Voilà, s'il y a pas de poils, c'est pas forcément du porno pour le Japon. On va quand même flouter les appareils génitaux. Enfin voilà, c'est un peu en France il y a tout et rien. Il y avait les films érotiques de la CIS, il y a des films pornographiques de toute une industrie quand même. On a une grosse industrie, me semble, pornographique en France quand même. On a pas mal de producteurs et de boîtes de prod. On a eu quand même Canal+ qui, pendant des années, avec son film du samedi soir, a permis aussi a permis la promotion du porno sur notre territoire.
Ouais.
Alors, je te laisse attaquer les chiffres.
Oui, j'aime bien les chiffres. On va vous faire quelques chiffres. Alors, j'espère que ça ne se bouscule pas trop sur le chat.
Non, ça va.
Donc, 60% de la population a déjà visionné de la pornographie. C'est peu, mais c'est normal parce que les chercheurs ont compté les grands-parents ou les grands-grands-parents. Et en fait, ils ont vraiment demandé à toute la population. Voilà, c'est 60%, même si il faudrait faire vraiment une étude par génération. D'âge. Voilà. Par exemple, 75% sont des hommes. 75% des consommateurs sont des hommes. Donc ça, c'est un chiffre qui est aussi important.
Qui a tendance à peut-être varier parce que pendant longtemps, c'était très mal vu de regarder la pornographie quand on était une femme. Aussi.
Tout à fait, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis alors, parmi les sites les plus populaires, alors on a Pornhub qui arrive qu'à la 36e place du classement mondial. Donc les trois premiers sont quand même Google, YouTube et Facebook.
Donc ça, c'est les trois premiers sites les plus visités.
Ouais, les plus visités.
C'est pas les sites pornographiques, hein.
Non, les sites les plus visités, mais pour à des fins de porno quand même.
Attends, on va visiter Google, YouTube et Facebook pour du porno ?
Bah moi, c'est ce que j'ai compris sur cette enquête.
Non, je pense pas. Je pense que c'est Pornhub, c'est le premier site porno visité, mais il n'arrive qu'en 36e place des sites les plus visités.
De tout, quoi.
Tout confondu.
Ah, d'accord. Bon, bah, c'est moi qui comprenais mal, mais après, je me suis dit qu'il pouvait y avoir des réseaux.
Sur Facebook, trouver de la pornographie, accroche-toi quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai que je me dis sur des groupes privés. Ouais, mais en même temps, ce serait pas dans le top 3.
Non.
Ouais. Ok, pardon. Il y a quand même donc 36e place, on a dit Pornhub. Il est suivi par
X-Vidéo
à la 39e place, par Bonga Cams à la 48e place. X-Hamster, 76e place. Alors ça, moi, je ne connais pas.
XNXX,
91e place. Et alors, pour revenir à Pornhub, donc 36e place, il a été visité presque 30 milliards de fois l'an dernier, donc en 2020, je crois. Cette enquête, c'était 2021, il me semble. Donc, avec 50 000 recherches par minute, 800 par seconde, ce qui est quand même un...
Ce qui est énorme.
Ouais. Voilà.
Alors, et... par contre, si c'était en 2020, c'était parce qu'il y avait le confinement.
Justement, je me dis, c'est que ça, quand même.
Mais c'est à l'époque où Pornhub aussi avait rendu pendant 4 mois Pornhub gratuit. Enfin, il n'y avait plus d'abonnement et donc, du coup, tout le contenu de Pornhub était accessible à tout le monde.
Ah oui. Non, j'ai plus la source de cette enquête. Alors, dans ma mémoire, c'était ça. Et oui, il y avait ça aussi, cette histoire de Covid et tout, enfin, de confinement et tout ça. Pour continuer sur les chiffres, parce qu'après j'ai mis un lien là justement sur le conducteur d'un autre, un autre site.
Alors on nous dit dans le chat que Twitter est une grande source de porno amateur, parce qu'effectivement Twitter n'a pas la même législation que Facebook vis-à-vis des images qui sont postées.
D'accord, alors tu vois, c'est ça, moi je me posais la question en lisant, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'amalgame, c'est que j'avais lu quelque part que les réseaux sociaux étaient. Les premiers en fait à diffuser du porno et voilà, et en fait moi ignorante comme je suis, je ne sais pas dans quel réseau, mais en effet Facebook c'est sans doute compliqué, Twitter
c'est possible en fait, il y a carrément des comptes interdits aux mineurs, enfin c'est marqué dedans.
Ah ouais, d'accord, ok, bon,
avec normalement demande de follow dessus, et puis du coup l'autre est censé vérifier que vous êtes bien majeur, mais c'est hyper compliqué de, enfin voilà.
Ok, et YouTube alors c'est...
YouTube, a priori, peut y avoir du contenu pornographique dessus, sur les pages restreintes, en fait.
Parce que YouTube et Facebook, c'est un peu la même maison. Je ne sais pas s'ils ont les mêmes règles. Ouais, c'est vraiment la même maison, normalement.
YouTube, bah non, ce n'est pas Facebook, c'est Google.
C'est Google, pardon. YouTube, c'est Google, oui. Ouais. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a du soft score public sur YouTube, sur Facebook. Il y a du hard en privé, nous dit Tajin Space dans le chat.
Okay.
Voilà, qui a l'air d'être... Cette personne a l'air d'être connaisseureuse.
Ah, bienvenue alors, parce que moi, vous voyez, je suis un peu à la masse.
Il y a aussi Snapchat, au départ, qui était quand même un réseau essentiellement fait pour la pornographie instantanée, s'envoyer des nudes très rapidement. Enfin, voilà,
oui, c'est vrai que... Ouais.
Snapchat, ça a quand même été le réseau hyper facile pour sur YouTube, en tapant Naked Yoga ou d'autres mots-clés, on trouve des choses pornographiques. Ok.
D'accord, merci pour ce tuyau.
On va aller voir. On est sur du porno amateur et on est en dehors des
plateformes,
grosses industries, et donc du coup,
dédiées, quoi.
On est sur de l'artisanat, quoi.
Ouais. Et alors, du coup, j'ai bien aimé ce chiffre aussi, 22% des adeptes consultent des sites porno au boulot et 20% ont déjà été pris en flag.
Ah yes.
Voilà. Et la France se situe au 6e rang de la consommation mondiale. Bon, après, à voir si c'est proportionnel par rapport au nombre d'habitants, tout ça, je n'ai pas la réponse. Alors, j'avais d'autres chiffres, pas forcément tous intéressants. Alors, 12% de tous les sites web qui existent sur la toile sont des sites X. Il en existe près de 4,2 millions.
Putain, c'est ouf.
Ça, c'est dingo. Donc, par rapport à ce qu'on disait, voilà, mais vraiment dédié au porno, je pense. 25% des recherches effectuées sur les moteurs de recherche sont en lien avec du contenu adulte, soit 68 millions de recherches chaque jour.
Ok.
Voilà.
On fait une pause musicale ?
Ouais, c'est bien.
Et on va revenir avec la loi ?
Ouais, voilà.
Ok.
D'accord, parce que vous en avez marre de mes chiffres.
Non, j'en ai pas marre de tes chiffres, c'est juste je vois l'heure passer.
Ah oui, tout à fait, 38. Voilà, pardon. Alors, est-ce qu'on écoute Lazuli ?
Allez, on écoute Lazuli.
C'est de la scène inouïe du Printemps de Bourges l'année dernière. Et moi, je l'ai vu au Temps Machine il y a quelques jours. C'était très sympa.
Et ça t'a plu ?
C'était rigolo.
Ok, et on écoute tout de suite Lazuli sur Radio Campus 88.3 FM.
Lazuli, baby. J'aimerais que tu me le dises. Arrête tes sottises. J'suis pressé pour savoir synthétise. Allez, rate de mi boca, tio. La fiesta terminada, tio. Y ya te pasó. Aquí la chica de su sueño. Pobre tipo, pobre tipo. Y ya te pasó. Es un pobre tipo.
décalaté. Les mecs fausseraient. Tant mais c'est rendu du ciel. La suite on la connaît. On la connaît. Mec, 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 fausseraient. Ouais. Vas-y, mollo, vas-y, mollo, vas-y, mollo. Tu peux pas si je t'aime pas. Quand la vague la chinoise. Dis, ma trop égo, ça te donne chaud. Ouais. Vas-y, mollo. Tu peux pas si je t'aime pas. Quand la vague la chinoise. Ça te donne chaud, ouais. Tipo, pauvre tipo. Il y a des passos. Laisse-moi pauvre tipo. Tipo, laisse-moi shiner, briller every day. La même ambition, chaque année, c'est fou. Lâche l'affaire, pourquoi tu forces, tu te rends fou, toutou. Toutou. Je vends la zone, toutou. T'es un côté, t'es hecho de menace, tio. Ça comme elle est de soigner, chico. T'es hecho de menace, tio. Vas-y mollo, tu peux pas suivre le tempo. Quand la vague latino sous climat tropical, ouais, ça te donne chaud. Vas-y mollo, pauvre tipo, pauvre tipo. Vas-y mollo, vas-y mollo, lolo. Vas-y mollo, vas-y mollo, vas-y mollo.
Attends, voilà. Ah. Je crois qu'en fait, j'étais pas à l'antenne. Excusez-nous, je me suis trompé de bouton. Voilà, on disait que c'était compliqué à la fois de gérer. Et bien voilà, plus de son d'ailleurs, on nous le dit. Il y a un mode où le setup s'améliore. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué de gérer à la fois ma régie son, ma régie caméra, à la fois la chronique. Voilà. Mais, si on, si, mais on s'y fait. Hein, c'est juste une question d'habitude. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, je disais que donc, on a parlé de pas mal de théories autour du porno et on va continuer parce qu'on s'intéresse à la loi maintenant. Que dit la loi sur le porno ? Est-ce que le porno, c'est interdit ? Bah, en fait, non. En France, le regard du porno, c'est pas interdit. C'est fortement déconseillé pour les mineurs. C'est pas interdit formellement pour les mineurs parce qu'en fait, comme on disait au début d'émission, c'est pas vraiment verrouillé pour les mineurs. Hein. C'est assez facile d'accès malgré tout. Et faire de la pornographie, hein, est-ce qu'on en parle ? Là, on n'est plus sur regarder, mais vraiment faire de la pornographie, c'est pas interdit non plus, sauf pour les mineurs. Voilà.
Oui.
Voilà, enfin, ça c'est interdit.
Dès qu'on est majeur, rien n'est interdit en ben manière voilà. de sexualité et de pornographie. Mm-mm. Tant qu'il y a du consentement.
Bah
toujours.
Oui, oui. Bah c'est ça.
Trigger warning, on parle de pornographie, voilà.
Ouais. Et alors du coup, ce qui est strictement interdit, vraiment, vraiment interdit, donc on disait, je vous disais, regarder du porno, bah, c'est pas interdit ni pour les mineurs ni pour les majeurs concrètement dans les faits. Par contre, ce qui est ultra condamnable, c'est la pédopornographie, qui met, donc c'est la pornographie qui met en scène des jeunes de moins de 18 ans. Donc ça, c'est vraiment illégal. En produire, en regarder, les deux, en fait. Hein. Si on est témoin de l'existence d'un site porno sur lequel apparaissent des enfants ou des ados de moins de 18 ans, c'est important déjà de signaler. Et si on est aussi témoin de quelqu'un qui serait enrôlé là-dedans d'une manière ou d'une autre,
il faut agir.
Il faut agir, ouais.
D'ailleurs, la pornographie pose la question dans notre société de l'éphébophilie et de l'hypersexualisation du corps à la fois de la teen et du teen. On a bien eu une tentative avec... beaucoup moins d'hypersexualisation chez l'homme, hein, puisque du coup, même les hommes matures, même les hommes vieux arrivent à être hypersexualisés et rendus à peu près beaux dans le porno. Il faut quand même bien dire qu'on a une éphébophilie énorme dans la pornographie qui met très en avant le corps de la teenager. On a même une catégorie teen. Alors, elles ont plus de 18 ans dedans, mais elles sont, si possible, plus ressemblantes à des adolescentes. On a une tentative avec la catégorie MILF de finir par réhypersexualiser un corps plus âgés, plus vieillissants, mais bien maintenant on se rend compte que dans la catégorie MILF, on va nous mettre des personnes qui ont 25 ans. Excusez-moi, mais à 25 ans, on est encore loin d'être MILF. Voilà. Mmh. Donc voilà, il y a des choses qui changent. Le vrai problème de la pornographie actuellement, c'est les industries culturelles et le fait qu'elles veulent faire énormément, énormément de fric avec le porno. Et donc du coup, qu'elles se mettent dans des... Et ben, elle continue à véhiculer les stéréotypes, en fait, sans se remettre en question. Alors après, on pourrait parler du Virago, des Gwynvert et toute une pornographie dite amateur ou artisanale qui n'est plus dans les classiques, en fait, de la pornographie industrielle, qui mériterait presque une émission complète à côté, une deuxième émission pour parler justement de l'alter-pornographie.
Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que là, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, je pense qu'il faudrait limite faire intervenir quelqu'un sur le sujet.
Les gens du Stras, peut-être.
Ah, peut-être, faudrait voir. Ouais. Mais oui, la pornographie alternative, underground, en fait, en dehors de cette industrie.
Ou artisanale, même.
Ou artisanale, voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait dessus, pourquoi ça va à l'encontre des problèmes, en fait, qu'on peut relever dans la filière industrielle. Et justement, on en avait parlé aussi hors antenne, mais il y a beaucoup d'amalgames faits entre les problèmes autour des travailleuses du sexe et la pornographie. Donc, comment distinguer l'un et l'autre.
Travailleurs et travailleuses du sexe, hein, puisque dans la pornographie, il y a aussi des hommes.
Oui, 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 tout à fait. Et du coup, qui sont souvent logés à la même enseigne par rapport à plein de problèmes de droit du travail, de
droit à la vie privée.
De droit à la vie privée.
Et il y a des trucs intéressants sur lesquels on pourra peut-être prolonger aussi. Et on peut vous proposer. Moi, je vous propose deux documentaires qu'on peut trouver sur la plateforme Netflix. L'un qui s'appelle Hot Girls Wanted, qui nous parle justement de l'industrie américaine du porno et comment ils vont rechercher des jeunes filles un peu paumées pour les amener à devenir des actrices et comment ça les brise, comment ça les jette. Et on voit bien que même les hommes, même s'il y a de la violence contre les hommes dans ce milieu-là, eh bien, en fait, ce sont les femmes qui en prennent encore plein la gueule. Et aussi After Porn Hands, qui est sur... On suit Tia Carrère, qui est une ancienne actrice pornographique. Et du coup, elle nous raconte la fin de sa carrière, comment elle a dû changer de ville, comment elle a dû changer aussi de nom à certains endroits, que des fois, les films remontent et que quand elle va chercher ses gosses à l'école, elle se rend compte qu'il y a des voisins qui l'ont vue et du coup, elle se fait traiter de... par tous les noms, par certains puritains. Enfin, voilà, il y a deux très bon documentaire qui replace un peu ce qu'est le porno et l'industrie en fait du porno américaine. J'imagine qu'on pourrait faire la même chose sur les pays de l'Est où on a des trucs qui doivent être encore plus abjects avec des gens qui sont encore plus dans une plus grande précarité. Donc voilà, des documentaires si vous voulez prolonger le truc et peut-être qu'on pourrait en parler. Je sais qu'on a pas loin d'Orléans une tenancière on a quelqu'un qui était dans l'industrie du porno il y a une vingtaine d'années et du coup peut-être qu'on pourrait la contacter pour faire justement une émission sur l'après-pornographie, quoi.
Ah ouais, ce serait vachement intéressant. Et si on peut choper un contact, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Ouais, à nous dire
plutôt en DM via Instagram, hein,
n'hésitez pas en permanence
sur la stream Twitch, hein, vous pouvez nous envoyer des DM sur Twitch qu'on lira une fois par semaine quand on réouvre le
c'est ça le stream. Ouais, mais en DM en tout cas on est plusieurs dessus à vous lire, donc n'hésitez pas. Et je voulais juste rappeler ce site internet pour les signalements, hein, on est sur quand je parlais de pédopornographie, donc c'est internet-signalement.gouv.fr. Donc c'est ce site-là sur lequel il faut aller pour aller mettre votre lien, enfin le lien que vous avez trouvé qui semble suspect, ou alors pour dénoncer quelque chose, hein, vous pouvez écrire des messages. Donc voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'important à rajouter ? Je pense qu'il y a 10 milliards de trucs à dire.
Il y aurait tellement de choses à dire.
Mais je pense qu'on y reviendra. Je pense que l'idée de parler du milieu alternatif est très bonne. Et puis sinon, d'avoir un témoignage, on n'hésitera pas à rouvrir ce sujet à cette occasion. Voilà. Et alors, on a les questions au doc qui n'est pas là.
Non, mais...
mais on en a... Enfin, nous, on peut...
Il y en a certaines auxquelles on peut répondre.
On peut répondre, voilà.
Et vous aurez aussi des réponses dans l'émission de la semaine prochaine.
Oui, oui, alors voilà. Et puis, rajoutez vos questions, évidemment. Je commence par une question qui est plus adressée à Julien.
Oui.
Est-ce que ça fait mal une vasectomie ?
Oui. Ça reste une opération chirurgicale, ça ne fait pas extrêmement mal, hein. On est endormi. Y a plusieurs manières de le faire, il y a la générale, il y a la loco-régionale, il y a la rachianesthésie. Aux États-Unis, au Canada, en Belgique, ça se fait beaucoup directement en cabinet d'urologie en 5 minutes en loco-régionale. Il paraît que c'est parfois un peu compliqué parce qu'on peut avoir le scrotum qui se rétracte à ce moment-là parce que enfin, c'est pas hyper rassurant quand même de voir un scalpel arriver près de ses testicules. Après, oui, bah, ça a quand même une incision dans la peau du scrotum. Derrière, on tire un canal, on le coupe, on le cautérise, on referme. Même en loco-régional, ça peut ne pas faire du bien. Et après, moi, j'avoue, moi, j'en ai fait une. C'était en général. J'avoue quand même, les 4-5 jours après, on est déjà un peu groggy. Et bah, quand tout doit se remettre en place, et ça dépend aussi comment elle se passe, la vasectomie. Moi, je sais qu'a priori, il y a une légère complication sur mon canal gauche. Il a fallu le sortir plus. Il était un peu fuyant. Donc après, bah, en fait, ça reste quand même des choses qu'on est venu manipuler dans votre corps. Donc le temps que ça se remette en place, et bah, ça chatouille un peu. Mais a priori, ce n'est jamais plus douloureux que des règles douloureuses. Et on le vit une fois dans notre vie, pas une fois tous les 28 jours pendant 25 ans. Ou 35 ans, voilà.
Merci, donc, gros peut... big up. Ouais. Et d'ailleurs, alors on n'a pas de témoignage.
Avec du Doliprane, ça passe. Hein. En vrai, avec Doliprane, ça passe. Là,
ouais, avec Doliprane, il y a plein de trucs qui passent. On ne fait pas la promo du médicament, mais si vous avez un début
avec
de Covid.
Avec du paracétamol. Ouais.
Même, je dirais, même Dafalgan, qui est produit dans...
C'est une autre marque.
Ouais, mais qui est tout aussi efficace, voire plus efficace selon les corps, et qui est produit localement. Bref, alors on reste un peu sur ce sujet par rapport à la cryoconservation. Donc ça peut concerner tous les genres. Hein, en fait, donc c'est le système qui permet de congeler soit les spermatozoïdes, soit les ovocytes. Mm-hmm. Donc spermatozoïdes pour les amabes. Et les AFAB pour
les ovocytes.
Voilà, pour les ovocytes. Donc la grosse question, c'est est-ce que c'est pris en charge et comment ça se passe ? Alors, cette question, il faudrait vraiment la traiter à un moment avec des spécialistes.
Alors, vous avez dans la semaine prochaine, justement, les médecins qui répondent à la prise en charge lors d'une vasectomie. Lors d'une vasectomie, la prise en charge, elle n'est pas de 100%. Elle va dépendre un peu de votre mutuelle. Moi, je peux y répondre à cette question, clairement. Si vous avez une ALD, oui, elle est prise en charge. Par exemple, vous avez un cancer des testicules, et ben la cryoconservation, elle va être prise en charge avant d'avoir votre traitement sur le cancer des testicules parce que c'est pas votre faute si vous allez devenir stérile. Dans le cas d'une vasectomie de confort, on va dire, voilà, et ben votre cryoconservation, elle est à votre charge. Alors, la première cryoconservation pour un homme, voilà, pour un amab, elle est de 125 €. Environ, et ensuite tous les ans il faut repayer 50 € pour faire conserver ces spermatozoïdes. Ensuite, cette facture, vous l'envoyez à votre mutuelle, c'est votre mutuelle qui décide ou non de vous rembourser.
Mmh, d'accord. Et alors, concernant les femmes, c'est un peu compliqué, franchement. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur le chat ?
C'est sur le chat, on me dit « Ah, on croyait que Julien allait dire ben, « On le saura la semaine prochaine si la vasectomie est douloureuse, car on va en faire une en direct sur Twitch
!» Bah ouais, alors trigger warning vachement.
Ouais.
Et non, j'allais casser l'ambiance pour parler des femmes et de la cryoconservation des ovocytes. Juste une info, cette cryoconservation est ouverte à toutes les femmes depuis 2021.
Oui. Depuis hyper pas longtemps. Mais d'ailleurs, pareil, hein, pour le don du sperme, on pourra faire toute une émission là-dessus, mais il y a plein de choses à faire.
Ah ouais, non, mais alors c'est donc...
Sur le don de gamètes, on pourrait faire une émission là-dessus aussi.
Ouais, donc voilà, donc c'est quand même ultra chaud, moi, cette info, je trouve. Et donc, est-ce que c'est pris en charge ? Vous imaginez bien que si c'est autorisé depuis peu, c'est pas encore ultra pris en charge, et c'est pris en charge seulement pour les femmes qui ont des pathologies avérées et prouvées par des lettres de médecins, des ordonnances. Donc ça peut être de... des kystes aux os verts très réguliers. Il y a l'endométriose, évidemment, mais sévère. Donc, il faut avoir été opéré d'endométriose. Ou
se faire opérer, enfin, être vers l'opération.
Ouais, voilà, ou en endométriose qui a un stade assez élevé et qui met en péril votre fertilité. Donc, c'est un peu ça qui fait que la Sécu prend en charge. Après, ça peut être vu au niveau des mutuelles. Je pense que c'est une prise en charge partielle. Je suis en train de creuser la question pour vous. Mais voilà, c'est un peu chaud, je trouve, ce sujet. On a encore plein de chemin à faire. Voilà, est-ce qu'on finit par une dernière question? Je pense qu'on a le temps de s'en faire une.
On a une question dans le chat à laquelle j'essaie de répondre. C'est, y a-t-il un âge limite pour les femmes?
Alors,
de la part de Santonila, pour le don ou la conservation, je sais que pour le don, c'est 35 ans.
Alors,
ou 38.
C'est 37 ans pour le don de vos sites, je viens de voir.
Pour la cryoconservation, il n'y a pas d'âge limite, c'est tant que vous avez des ovocytes si vous les conservez pour vous-même.
Et en fait, il y a des tests vraiment préalables qui sont faits. En fait, ça s'appelle une stimulation ovarienne qui se fait par échographie pour vraiment vous tester, pour voir comment ça réagit.
Ouais, et puis alors, par contre, la cryoconservation masculine, c'est rentrer dans une petite chambre, se masturber
et
mettre ça dans un verre à pied et faire ça bien propre en étant bien stérile. Pour une femme, un peu plus compliqué.
Voilà, c'est anesthésie générale. Donc là, je vous parlais de l'échographie.
Électrostimulation pour faire relâcher les ovocytes, je crois.
Voilà, alors ça, c'est vraiment lors de l'opération. Mais donc là, je vous disais juste l'échographie préalable. C'est au préalable, c'est-à-dire c'est un rendez-vous qui vous teste avant l'opération pour voir vraiment si c'est valable et si ça va réagir. Donc c'est vraiment pas anodin, c'est une vraie intervention. Et là encore, on se rend compte que nous ne sommes pas égaux. Et voilà, donc j'espère que science...
Là, malheureusement, on n'est pas égaux, mais c'est aussi parce qu'on a une plus grande facilité à nous à pouvoir sortir
nos
gamètes.
Bien sûr.
C'est malheureusement...
C'est la vie, la science, le corps. Et voilà, mais en tout cas, je vous encourage à aller vous renseigner. J'orienterai tout de suite vers Tours.
C'est cause de Tours, ouais.
Ouais, voilà, le service PMA.
Alors, il y a un service PMA Aurélien-Sorléans qui n'est pas mauvais non plus.
Alors, personnellement, on ne me l'a pas conseillé.
Voilà, il y a un Sécos aussi à Orléans, à l'hôpital d'Orléans qui n'est pas toujours facile d'accès. Par contre, effectivement, le Sécos de Tours, là, le centre d'études de conservation des ovules et du sperme de Tours à l'hôpital Bretonneau, au CHU Bretonneau. En fait, dès qu'on cherche sur notre moteur de recherche préféré, c'est lui qui sort en top liste. En vrai, l'accueil, il y est.
Et ils répondent au téléphone. On vous explique comment ça va se passer et tout. Donc, on répond à vos questions juste en appelant, en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, est-ce qu'on a encore des questions sur le chat ou
Non, là, il n'y a pas de nouvelles questions. Après, il faut leur laisser un petit délai de 30 secondes.
Et
c'est... Je ne sais pas synchroniser exactement comme
Et sur Instagram, je vérifie parce que je viens de dire avant l'émission que j'avais désactivé les notifs. Mais non, on n'a pas de questions sur Instagram non plus. Et du coup, est-ce qu'on se fait une dernière question
Allez.
Alors, est-ce qu'on a mal... Non, attends, c'est ça. Comment faire l'amour pendant ses règles? Alors ça, c'est aussi une vaste question. Et je dirais que c'est selon les personnes, c'est selon les sensibilités de chacune. Parce que donc les règles...
Et de chacun aussi.
Et de chacun, évidemment. Alors évidemment, non, mais là, je parle vraiment si, par exemple, votre partenaire, peu importe son genre, vous demande d'avoir un rapport et que vous avez vos règles. Comment on doit réagir? Alors déjà, c'est si vous avez envie ou pas.
Évidemment.
Si vous le sentez ou pas, si c'est pas trop dégueu, si vous êtes confort, si vous avez pas trop mal, parce que franchement, ça dépend des règles aussi. Après, ça dépend aussi, vous savez, si vous avez envie de salir l'endroit où vous le faites ou pas. Voilà, il faut prendre ses précautions. Le fait de le faire sous la douche ou dans la baignoire ou quoi, ça peut faciliter parce que l'eau, en fait, stoppe l'écoulement en fait du sang, donc ça forcément on y pense tout de suite. Et puis après, moi j'aurais envie de dire que